RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
En direct d'Utrecht pour cette première étape du Tour de France qui a donc rendu son verdict. Nous avons le premier maillot jaune de ce Tour. On va en parler dans quelques instants avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, avec lesquels on va évidemment débattre dans quelques instants, et notamment de la superbe performance de Thibaut Pinot qui a piné tous les fantastiques, les quatre fantastiques battus par Thibaut Pinot. C'est quand même énorme ce qu'a réalisé le jeune coureur français de la formation FDJ. Les débats, c'est dans un instant, mais auparavant, on va retrouver Guillaume Laniel pour la deuxième édition du Journal des Sports.
Salut Christophe, et on va débuter avec le tennis, évidemment, Wimbledon. Dans quelques instants, c'est le choc 100% français entre Gaël Monfils et Gilles Simon. Comptant pour le troisième tour, tournoi malheureusement terminé pour Joe Wilfried Tsonga, défaite en 4-7, 6-7, 6-4, 6-7, 6-7 face à Ivo Karlovic qui a sorti 41 aces. Ça passe en revanche pour Federer et Cilic et Péché des Filles. Sachez-le, la tenante du titre, Kvitova, a été sortie par Jankovic. Le golf et l'Open de France, journée étincelante pour le Sud-Africain Jacob Van Zyl qui a pris les commandes du tournoi. Et Victor Dubuisson lui est toujours en course pour la victoire puisqu'il pointe à la quatrième place à quatre coups du leader. En football, dans trois heures, place à la finale de la Copa América, l'Argentine de Lionel Messi affronte le Chili. Les Argentins n'ont plus remporté le moindre trophée depuis 93. Finale à suivre en fil rouge sur RMC à partir de 22h au rayon Mercato. La signature du gardien allemand Kevin Trapp au Paris Saint-Germain est imminente. Le jeune joueur a donné son accord. Le transfert devrait se finaliser ce week-end. Et puis Idrissa Gueye, pour 4 ans à Aston Villa, l'ancien Lillois touchera 250 000 euros bruts par mois. Le meeting Areva de Paris, c'est ce soir à suivre sur RMC. On rejoint tout de suite au Stade de France François-Xavier de Châteaufort. Salut FX.
Salut, salut.
Et en l'absence du Usain Bolt, eh bien la star, évidemment, c'est le perchiste français Renaud Lavillenie.
Eh oui, Renaud Lavillenie, sextuple vainqueur ici au Stade de France, sera une nouvelle fois le grand favori de ce concours de saut à la perche très attendu. Le recordman du monde vise un septième succès à Paris, mais aussi une performance si possible mieux que les 6 mètres record du meeting établi pour la première fois par Sergueï Boubka, le tsar, il y a 30 ans. Renaud Lavillenie, qui a déjà franchi 6 mètres 05 cette saison, aura avec lui le public du Stade de France, la chaleur, mais il faudra faire avec le vent qui s'est légèrement levé ici au Stade de France et qui, tourbillonnant dans le stade, pourrait s'avérer perturbateur. Mais Renaud Lavillenie en a connu d'autres.
Merci FX, on se retrouve tout à l'heure à partir de 20h30 évidemment pour eh bien l'intégrale sport du côté du Stade de France avec Maryse Evangépé. En natation cette fois-ci, la suite de l'Open de Vichy. On va retrouver également sur place Julien Richard. Salut Julien.
Salut Guillaume.
Avec il y a quelques minutes la finale du 100 mètres d'eau qui s'est terminée. Nos deux Français Jérémy Stravus et Camille Lacour, surpris
par Arkadi Vjačanin, ex-russe, futur serbe, qui ne disputera pas les mondiaux parce qu'il attend justement sa nationalité serbe cet été, les mondiaux qui auront lieu à Kazan. Et donc victoire d'Arkadi Vjačanin devant Camille Lacour en deuxième position, 54 secondes 40 centièmes. La troisième place pour Jérémy Stravus, 54 secondes 80 centièmes. Alors les chronos sont vraiment pas bons, hein, c'est très loin de leur meilleur temps cette saison, mais on vient de les rencontrer à l'instant, il n'y a aucune inquiétude. C'est la fin pour eux d'une longue période de travail. Ils vont maintenant se tourner vers la Russie, vers Kazan, et préparer véritablement, diminuer le kilométrage d'entraînement, préparer les mondiaux dans un mois.
Merci Julien, envoyé spécial de RMC à Vichy. Et puis on vous le rappelle, Florent Manaudou qui a terminé tout à l'heure troisième de la finale du 50 mètres papillon. En Formule 1, une huitième pole position en 9 courses. Lewis Hamilton continue d'affoler les compteurs. Le champion du monde en titre a décroché la pole position à Silverstone devant son coéquipier Nico Rosberg et le Brésilien Felipe Massa. Et puis une dernière information NBA, basket nord-américain évidemment, avec LaMarcus Aldridge qui s'est engagé pour les San Antonio Spurs où il retrouvera la saison prochaine un certain Tony Parker. 19h11 sur RMC, tout de suite la suite de l'intégral Tour de France avec Christophe Cessieux.
Et oui, nous sommes toujours ici sur la ligne d'arrivée de cette première étape du Tour de France à Utrecht, aux Pays-Bas, avec cette première étape qui s'est disputée dans des conditions dantesques. Il a fait très chaud aujourd'hui sur la ligne d'arrivée et tout au long des 13 km 800 du parcours. Plus de 40 degrés qui, évidemment, ont joué des tours à certains. L'intégral Tour, ça continue donc avec Cyril Guimard, le druide qui est descendu de son arbre, qui est revenu dans notre petit camion. Bonsoir, monsieur le druide.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ça commence.
Ah ben oui, c'est la première étape.
Dix
ans plus tard, comment marche un micro de radio?
Non, j'étais très très attentif à la position et je regardais le classement de Jean-Christophe Perrault. C'est ce qui m'a troublé. Moi, j'essaye de me documenter.
Faut dire qu'il bosse. Hein. Luc aussi bosse énormément depuis le début de la journée. Il essaye de repérer évidemment les meilleurs. Spécialité gastronomique de Hollande, t'en as trouvé? Non,
il y a le fromage, il y a les bonbons au chocolat, les petits déjeuners aussi qui sont pas mal.
Ouais,
le matin.
Bien. Bon, ça va, Luc, en pleine forme? Tu t'es régalé aujourd'hui?
Oui, très très bien. Tu sais, quand tu es en face de moi, je me régale toujours.
Merci, ça fait plaisir. Thierry Bourguignon, il est pas en face de nous, il est tranquille à la maison, les pieds dans la piscine. Elle est belle en plus là.
J'ai même pas eu le temps
de piscine de Bourguignon.
À Montfavé là-bas, il est bien Thierry, hein.
Ouais, mais j'ai même pas eu le temps parce que j'ai été bloqué, vous savez que j'étais à Lyon pour le jubilé.
Ah, mais oui, bien sûr.
De rugby,
Ils t'ont pas fait entrer sur le terrain quand même.
Et j'ai pris mon train. Je viens juste d'arriver.
Très bien. Donc une journée bien remplie.
Oui.
J'imagine qu'il fait bon chaud en plus dans la région d'Avignon.
Bien bon, tu sais, dans la gare, quand t'es bien bloqué avec des milliers de personnes, c'est super.
Mais bon, très bien, messieurs, on va évidemment revenir sur cette première étape remportée donc Cyril par Roan Denis. C'est la première surprise du jour parce qu'on attendait évidemment les Cancellara, les Dumoulin et surtout les Tony Martin. Et bien les trois cadors du contre-la-montre se sont fait avoir par un jeune blanc-bec de 25 ans. Alors certes, c'est pas un débutant, hein, Roan Denis, mais tout de même
d'arriver. Corman demande de l'heure avant que Wigginson arrive.
Oui, mais enfin le record du monde de l'heure en ce moment, hein, mis à part depuis que Wiggins l'a décroché, c'était un peu, ça changeait tous les 15 jours, donc on savait pas vraiment ce que valait ce Roan Denis, mis à part les spécialistes dont tu fais évidemment partie, mais là il a non seulement remporté l'étape et décroché par la même occasion le maillot jaune, mais en plus, il a battu le record de l'histoire du Tour sur les chronos, et ça c'est pas rien, il a même battu un certain Greg LeMond, qui, plus de 55 kilomètres,
500 et quelques,
500,
oui.
Ouais, 55 ouais. Kilomètres, 446,
c'est mieux. Il y a pas de moto à la place.
Ah, ça, on peut demander à Cyril. Surpris quand même par la perte de personne ne l'avait donné dans les paris.
Non, personne ne l'avait donné. Effectivement, il avait battu le record de l'heure à 52,491, ce qui est quand même une référence. Puis il avait d'autres références passées un petit peu inaperçues. Il a remporté quand même l'étape contre la montre du Critérium du Dauphiné. Il avait terminé deuxième du prologue de Paris-Nice, mais il était relativement discret, même s'il avait gagné aussi le Tour de Nunder.
Mais là, il a fait huitième il y a deux ans du Critérium du Dauphiné aussi.
Oui, non, mais c'est pas
c'est
un mauvais
coup. C'est un spécialiste, hein. Mais on s'est fait avoir.
Il gagne, c'est bien. En plus, il vient d'avoir 25 ans. Il rentre dans le Gotha des grands rouleurs. C'est une certitude aujourd'hui. Mais il n'a pas fait une différence énorme. Les autres ont été au rendez-vous. Martin est à 5 secondes, Cancellara est à 6 secondes, et Dumoulin, le Batave, est à 8 secondes. Ce qui veut dire que vous avez 4 coureurs en 8 secondes, il n'aurait pas fallu grand-chose pour que la hiérarchie soit bousculée, mais finalement, c'est peut-être la fraîcheur, l'envie, ou peut-être moins de pression aussi.
Oui, alors il y a aussi un élément à prendre en compte peut-être, c'est que Denis s'est lancé dans la première partie
dans la
de la
première
journée,
vague, oui.
Et un peu comme Thibaut Pinot d'ailleurs, dont on va parler dans un instant. Et il semblerait que le vent se soit légèrement renforcé en fin d'après-midi, au moment où tous les cadors se sont élancés et sur un parcours de 13 800 km, ça peut faire la différence.
Ça peut jouer sur ça n'a pas été énorme, mais ça joue. C'est suffisant de toute façon pour modifier, on va dire entre 2, 3 et 10 secondes la performance finale. Mais si Roan Denis était parti en même temps que Cancellara, imaginons que ce soit de 10 secondes, il aurait été quatrième.
Ouais. En tous les cas, belle perf donc de Roan Denis, premier maillot jaune de ce Tour de France. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver dans les jours qui viennent? Peut-être demain, mais ce sera moins sûr après-demain avec l'arrivée au mur de Huy. Autre performance, évidemment, on attendait les quatre fantastiques pour savoir exactement où ils en étaient. On fera tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, le baromètre des fantastiques. Mais il y en a un qui a été plus fantastique que les fantastiques. C'est évidemment Thibaut Pinot, notre jeune Français, troisième du Tour l'an dernier, et qui aujourd'hui, a surpris tout le monde. On savait qu'il avait fait des progrès dans le contre-la-montre, mais de là Thierry a tapé Froome, a tapé Quintana, a tapé Nibali et a tapé le quatrième fantastique qui s'appelle Contador, c'est quand même une surprise. Est-ce que tu as été surpris par la performance de Thibaut Pinot? Dis-le-nous vraiment. Tu vas pas nous dire oui, je le voyais battre tout le monde au chrono. Ça, c'est pas possible.
Absolument pas. Je le voyais pas si près. Mais j'ai été surpris par la contre-performance des trois autres. Parce que franchement les autres les quatre fantastiques, bon il y en a un qui est meilleur que les trois autres, c'est Nibali, mais autrement les trois autres pour moi ils ont raté, on n'avait pas l'habitude de les voir aussi loin dans un chrono du Tour de France.
Alors c'est les autres qui ont raté
non,
c'est Thibaut qui a été impressionnant,
ça n'enlève pas la performance de Thibaut, hein. Parce que franchement, Thibaut Pinot s'est battu. Il a énormément progressé parce qu'on le savait que ça allait un peu mieux. Bon, il avait raté son chrono du Tour de Suisse. Mais je pense que c'est sur la pression, comme il avait le maillot sur le dos, la pression du dernier jour, il avait peur de rater, il l'a raté complètement. Mais là, franchement, chapeau, parce qu'on disait qu'il pouvait que progresser, et il nous montre que il a vraiment fait un pas en avant. Donc ça peut, toi, ça peut nous réserver quelques surprises dans ce petit tour.
Ben oui, déjà la première surprise c'est qu'il soit là devant les autres.
Et puis
il va falloir confirmer. On va l'écouter tout de suite. Thibaut Pinot rencontré juste après l'arrivée par Pierre Higten. Il ne savait pas à ce moment-là qu'il avait battu Nibali, Contador et Froome. Il savait juste qu'il avait battu Quintana. Alors c'est pas mal quand même de battre Quintana et les autres. Thibaut Pinot.
C'est sûr, c'est mieux que d'en perdre, mais voilà, 20 secondes c'est rien. Avec tout ce qui nous attend la première semaine, c'est 20 secondes c'est vraiment anecdotique. Donc c'est pris, mais ce qui est important c'est juste de se rassurer, quoi, c'est tout. J'avais hâte parce que ouais, c'est vrai que ça fait deux jours à l'hôtel, c'est pas ce que je préfère. Et, c'est des journées qui sont assez longues, donc voilà, on est pressé que ça commence et que ça commence bien, c'est un petit plus. Ouais.
Voilà, que ça commence bien, c'est évidemment un petit plus. Cyril, surpris, bluffé par la performance de Thibaut. Est-ce que franchement tu t'attendais à le voir à cette place-là ce soir?
Cette place-là. Oui, parce que si on regarde le classement, il est quand même 18e, donc il est sur une place normale. Si on prend les écarts par rapport au vrai rouleur, il perd 41 secondes, c'est-à-dire grosso modo 28 à 30 secondes par tranche de 10 km, ce qui est sa base de référence. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas raté son contre-la-montre, il a réussi un contre-la-montre parfait par rapport à son niveau de rouleur et surtout des progrès qu'il a fait depuis à peu près un an et demi. Donc, il réalise la performance que, en grande condition physique, super motivé, il doit réaliser. Et ensuite, on a des coureurs qui sont passés complètement au travers. Et les coureurs qui sont passés au travers, eh bien, c'est Froome.
On en parlera tout à l'heure, hein, des quatre fantastiques.
Mais la performance,
pas fantastique du tout.
La performance de Pinot, c'est la meilleure performance qu'il pouvait réaliser par rapport à son niveau dans ce type d'épreuve.
C'est-à-dire, c'est quand même la preuve qu'on peut progresser en contre-la-montre, Luc. C'est pas seulement dans les toutes jeunes années que tu parfais ta condition et que tu parfais ta situation de rouleur de chrono. Il a progressé, il a beaucoup bossé.
Il a une certaine maturité maintenant. C'est vrai qu'après avoir fait quelques grands tours, Thibaut s'est renforcé au niveau du chrono, de sa connaissance aussi au niveau de l'effort, parce que dans un chrono, il faut savoir se connaître et puis donner le meilleur de soi-même. Comme le disait Cyril tout à l'heure, il faut partir vite, mais pas trop non plus. Il faut se mettre dans le rythme, et au bout de 2 km, il faut aller de plus en plus vite et finir les 2 derniers kilomètres avec les jambes qui brûlent et donner son maximum. Et là, on a vu Thibaut qui, par rapport à l'année passée, a franchi encore un palier supplémentaire, ce qui promet beaucoup pour la suite du Tour.
On va écouter tout de suite le manager de son équipe, que tout le monde connaît, un certain Marc Madiot, qui était content de la performance de son petit gars. Il lui a dit « Bien joué, petit !» Marc Madiot, évidemment, qui ne veut pas s'emballer, parce que tout le monde va s'emballer, nous les premiers. Marc Madiot qui va tenter de calmer tout ça. On l'écoute tout de suite.
Ouais, au-delà de ce qu'on pouvait espérer ou souhaiter avant le départ de ce chrono, maintenant bon, on est parti un petit peu en amont des principaux favoris. Je pense que c'était plutôt une bonne décision qu'ont prise les directeurs sportifs de l'équipe avec Thibaut. Et apparemment, il y aurait eu un petit peu plus de vent peut-être dans la deuxième partie du déroulé du chrono, mais ça, il n'empêche que la performance est de qualité et on est bien rentré. Dans ce tour. On va pas s'enflammer ni se projeter trop loin. Il y a déjà une étape demain qui nous attend qui peut être très compliquée. Donc on va se concentrer sur demain.
Voilà, les étapes les unes après les autres et les performances les unes après les autres. Cyril, tu voulais ajouter quelque chose
je vais vous apporter un complément d'information, c'est que sur le contre-la-montre du Tour de Suisse, il y avait 38 kilomètres. Eh bien, sur le vainqueur, qui était Tom Dumoulin, Thibaut Pinot avait perdu 1 minute 50. Et lorsqu'on rapporte aux tranches de 10 kilomètres, ça faisait 28 secondes. C'est exactement ce qu'il a perdu aujourd'hui. Ce qui veut dire que, au Tour de Suisse, il n'a peut-être pas fait une mauvaise performance. Il était tout simplement dans son créneau, qui est les 30 secondes par tranche de 10 kilomètres. Donc, il est parfaitement dans son plan de travail, il est parfaitement dans sa logique.
Très bien, Thierry est avec nous au 32-16. Thierry, habitué de l'intégral Tour et passionné de vélo. Bonsoir Thierry.
Bonsoir messieurs. Bonsoir Thierry, Luc, Christophe. Ben, heureusement que Cyril est là pour calmer un petit peu le jeu. C'est l'enflammade là autour de Pinot. Je vous entends là depuis tout à l'heure. Hein. Ben, Cyril a rappelé qu'il est dans ses temps de passage par rapport au grand rouleur. Pour atténuer un petit peu sa performance, ça a été dit aussi. Il est parti tôt dans la journée avec visiblement un petit peu moins de vent défavorable que les autres favoris du Tour qui sont eux partis beaucoup plus tard. Il est dans ses temps de passage, mais il est à 20 secondes d'avance sur, j'ai le classement sous les yeux, là, sur les Contadors, From, Nibali.
20 secondes sur Quintana, 17 sur Contador, 9 sur Froome et 2 secondes sur Nibali. Je comprends, Thierry, que tu ne souhaites pas qu'on s'enflamme. On s'enflamme un petit peu, certes, mais moi, personnellement, je pensais qu'il allait perdre du temps sur ces gars-là. C'est là où je suis surpris.
Alors,
on va pas s'emballer, on dit pas qu'il a gagné le Tour ce soir, mais alors, par rapport aux autres, il est vraiment dans le coup, quoi. C'est ça qui est peut-être surprenant.
Mon analyse à moi, elle est que Thibaut Pinot arrive en grande forme sur ce début de Tour. Le Tour de France, c'est 3 semaines. On connaît le parcours des 15 derniers jours avec le passage des Pyrénées et la dernière semaine, le passage des Alpes. On se donne rendez-vous dans la dernière semaine. Je pense que les grands favoris, les 4 fantastiques dont vous parlez depuis le début du Tour, sont pas au top en ce début de Tour. Il y a une semaine plus ou moins tranquille, sans parler des pavés, du vent et des bordures. Mais s'ils passent au travers de cette première semaine, ils vont monter en température tout au long du parcours et on les retrouvera sur la dernière semaine. Et les 20 secondes d'aujourd'hui, ça ne sera qu'anecdotique.
Évidemment, ce n'est rien, mais c'est mieux que rien, quand même. C'est mieux que rien.
Il vaut avoir un avantage de 20 secondes.
Non, mais
il est clair qu'il vaut mieux que Thibaut ait 20 secondes d'avance sur Quintana et les autres favoris que 20 secondes de retard. C'est évident. Mais
et puis c'est bon pour le moral, surtout.
Notre auditeur a raison. Thibaut est dans ses temps de passage. Il n'a pas fait un exploit. Au-delà du commun ou au-delà de ses possibilités, et il est dans, je le disais, sur le Tour de Suisse, sur 38 kilomètres, sur Dumoulin.
Ouais, mais c'est pas le même parcours, le Tour de Suisse aussi.
Non, c'est pas les mêmes parcours.
Un peu moins roulant.
On est toujours sur la même base.
Ouais. Il était moins roulant quand même.
Et on va pas vous inviter aux fêtes, hein, parce que vous nous cassez le moral à chaque fois.
Mais il n'est pas question de casser le moral.
Mais non, mais c'est la fête, le Tour de France, mon druide, là.
On est là pour dire la réalité des choses.
Faut être réaliste, Christophe.
Oui, c'est ça. Allez, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre tous les deux. On va revenir dans quelques instants parler des fantastiques. Mais là aussi, il ne les trouve pas fantastiques, Cyril Guimard. Il les trouve presque tocards.
Ils n'ont pas été fantastiques aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Le baromètre des fantastiques, ce sera le thème de notre deuxième débat dans un instant. On va dresser le bilan de cette étape. En attendant, on va voir un autre fantastique. C'est Édouard G qui est au Jubilé, Sébastien Chabal et Lionel Nallet. Enfin, c'est pas vraiment fantastique pour Seb Chabal, Édouard, hein, qui a fait une Édouard G d'ailleurs.
Et le point commun, c'est quand même, il n'y avait pas loin un certain Christophe Cessieux, mais je dis ça, je dis rien. Alors, un a pu marquer son essai dans cette victoire, c'est donc Lionel Nallet qui a marqué le dernier essai de la victoire, 66-28, des amis donc de Lionel Nallet, de Sébastien Chabal, et l'autre donc Seb Chabal n'a pu marquer le sien, sorti à la 13e minute, rupture du ligament croisé, c'est ce qu'il nous disait il y a une heure sur l'antenne d'RMC. Voilà donc, alors fin
le
de
match
carrière.
De trop.
Le match de trop peut-être pour Sébastien Chabal, mais qui a pris quand même le temps en ce moment là de faire le tour d'honneur pour saluer les 20 000 spectateurs qui ont bravé la chaleur, les 40 degrés pour venir donc saluer Lionel Nallet et Sébastien Chabal qui cette fois-ci, puisque le match a quand même été un petit peu écourté, 70 minutes au lieu de 80, mais cette fois-ci ils ont bien raccroché les crampons.
C'est terminé donc pour Seb Chabal et pour Lionel Lannay. Dernier match. Merci Edouard, à tout à l'heure pour la suite de ce jubilé Chabal-Nallet. Dans un instant, la suite de l'intégral tour, le baromètre des fantastiques. Et puis tiens, si vous avez un titre à donner à l'étape de demain, à quoi vous attendez-vous? Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live également. Demain, on va vers les polders, on va arriver en pleine mer pour vous donner des idées. On en parlera tout à l'heure dans l'étape de demain. Ce sera dans le troisième débat. On vous attend sur le hashtag RMC Live. A tout de suite sur RMC, l'intégral Tour de France continue jusqu'à 20h30.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
Et oui, l'intégral tour, puisque le Tour de France 2015 s'est donc enfin élancé aujourd'hui avec cette première étape et ce contre-la-montre de 13 km 800 remporté par Juan Dennis l'Australien, la formation BMC. Mais évidemment, tout le monde avait les yeux braqués sur les fantastiques et les autres, tous les grands favoris de ce Tour de France, qui pour certains ont déçu, pour d'autres ont rassuré. C'était le cas de notre ami Thibaut Pinot, dont on vient de parler. Alors évidemment, sur Pinot, les avis sont partagés sur le hashtag RMC Live. Florian Pinet nous dit: perte de Pinot, c'est comme pour tous les Français, un jour on leur promet Monza Verveille, le lendemain largué à 15 minutes. En revanche Rico qui nous dit: Pinot ne fait que confirmer ce qu'il a démontré en chrono cette année, il n'a pas quitté les 20 sur les chronos World Tour qu'il a disputé. Donc on entend les avis évidemment très contraires sur Thibaut Pinot. On a également quelques bons titres pour l'étape de demain, je vous les donnerai tout à l'heure. Continuez, hein, il y aura une surprise pour celui qui aura le meilleur titre, un petit cadeau tout à l'heure en fin d'émission. Thierry Bourguignon, Luc Leblanc et Cyril Guimard sont évidemment avec nous jusqu'à 20h30. On va donc s'intéresser maintenant au fantastique, le baromètre des quatre fantastiques. Voilà, les quatre fantastiques, Quintana, Colombien, oui, ça va l'énerver le druide. Quintana, le Colombien, Nibali, l'Italien, Froome, le Britannique, ou plutôt le Kenyan blanc, et Contador, l'Espagnol. Cyril, alors, on a parlé de Thibaut Pinot, qui a performé normalement, qui a été bien, qui a fait son métier de coureur cycliste, et qui reste dans le coup. Mais, eux, ont-ils vraiment réalisé une belle performance? Les quatre, là. Si tu avais un bon point à décerner, tu l'attribuerais à qui? Nibali, peut-être, qui limite les dégâts, qui est à deux secondes
Pour moi, qui sont dans leur temps de passage sur ce type d'épreuve, Nibali, mais bon, je pense que Nibali aurait pu faire un tout petit peu moins. Et Quintana, qui est lui aussi dans ses temps de passage. Non, les deux grosses déceptions sur cette épreuve, c'est Froome et Contador. Je vous disais hier soir, moi, le terme, les fantastiques, ça me plaît pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas été fantastiques du tout. Si on doit les appeler les fantastiques, c'est parce qu'ils auront été fantastiques sur le Tour de France. Mais commencer à mettre ce terme-là avant le départ, ils sont fantastiques, ils sont extraordinaires, ils sont surnaturels. Eh ben aujourd'hui, ils sont devenus bio.
Pourquoi bio, c'est pas fantastique? C'est ça que t'es en train de dire?
Ah non, ils sont devenus bio.
Tu peux être fantastique et bio.
Si on veut, mais quand je dis ils sont redescendus.
Ils mangent pas bio, Cyril Guimard, ça se saurait. Hein.
Ah non, mais le druide, il boit toujours sa potion.
Son jardin, pourtant.
Sa potion, hein, le druide.
Et je vous en fais croquer. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ils ont été. Ils ont été quelconques, quoi. Attends, 46e, 50e, 39e. Attendez.
C'est quoi, alors, les quatre Moyen-Âge, quoi, en fait?
Ils sont du Moyen-Âge, hein, c'est
non, Moyen-Âge,
Vincent
qui dit ça.
Non, ils sont pas, pas dans l'allure. Et quand on a vu le final de Contador, là, dans cette dernière ligne droite, qui avait un tout petit braquet, qui avait du mal à l'emmener, qui avait pas de force, qui avait rien. Putain, il est à la rue, Contador. C'est pas le Contador qu'on a connu sur le Giro. Et Froome, il fait 39e de l'étape. Il joue la gagne du tour. 39e de l'étape et c'est un rouleur. C'est un rouleur, c'est un spécialiste.
C'est lui qui a raté le plus.
Rappelez-vous,
hein,
il jouait avec Wiggins. Oui.
Alors pourquoi Thierry? Est-ce qu'on a une explication sur les contre-performances des quatre grands favoris de ce Tour de France? Est-ce que ils vont arriver à leur pic de forme en troisième semaine, enfin plus exactement à l'abord des Pyrénées? Est-ce qu'on peut arriver comme ça vraiment à jouer sur le pic de forme au jour près? Ou alors tout simplement,
ils sont pas encore tout ce qui perd en forme, quoi. tout ce qu'ils perdent la première semaine, ils l'auront perdu hein, quand même. Hein. Donc faut qu'ils se méfient quand même. Non, Cyril l'a dit, ils sont pas dans l'allure. Alors est-ce que la chaleur les a plus touchés que les autres? Je ne sais pas, mais en tous les cas, pour moi, celui qui a raté le plus son chrono, c'est quand même Froome. Mais on l'avait vu au Dauphiné, il a gagné le Dauphiné certes, mais dans le chrono par équipe, c'était pas la grosse équipe, c'était pas la Sky qu'on a connue jusqu'à présent. Donc bon ben voilà, ils sont un peu moins bons et de suite ça se connaît parce qu'ils nous avaient tellement habitués à les voir dans les 10 premiers, même juste derrière les meilleurs, les spécialistes des chronos, et ben que là ils nous surprennent, mais dans le mauvais sens.
Ils nous surprennent dans le mauvais sens. Alors, Luc, Ticris sur le hashtag RMC Live nous dit dans les 4 fantastiques, il y a toujours un ennemi à éliminer. Et si cet ennemi était tout simplement devenu notre Thibaut Pinot? Évidemment, là, la situation et le regard que vont porter les autres sur Thibaut Pinot va peut-être changer, même si évidemment, ouais, depuis l'année dernière, quand tu termines 3e du tour, t'es plus oui. un tocard et t'es un garçon qu'on surveille. Mais est-ce que là, le fait qu'il enfonce le clou et qu'il batte ces 4-là sur un chrono qui n'est pas son exercice de prédilection peut changer la vie des autres?
Ben, forcément, je veux dire, leur regard va complètement changer par rapport à la performance de Thibaut Pinot aujourd'hui. Mais ceci dit, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu les Pyrénées, les Alpes pour voir comment vont se comporter les quatre fantastiques par rapport à Pinot. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il peut créer une surprise, Thibaut. Peut-être pas dans l'étape de demain, mais
attention, que ce soit pas dans l'autre sens.
Moi, je pense là que les quatre dits fantastiques. Ce soir, c'est pas Pinot qui regarde.
Non, c'est le vent.
C'est eux.
Non, mais ils se regardent.
Ils se regardent contre eux.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce soir, ils vont se poser des questions sur eux.
Oui, ils sont
pas sur Thibaut Pinot.
Non, mais j'entends bien ce que tu dis. Mais ceci dit, ils auront quand même un petit regard sur Thibaut Pinot, que tu le veuilles ou pas. Sur les prochains jours du Tour, ils auront un petit regard sur Thibaut Pinot parce que demain
ils auront un regard sur les bordures.
Ils n'ont plutôt pas intérêt.
Il peut perdre 2 minutes demain, même plus.
Ils n'ont plutôt pas intérêt à se regarder tous les quatre. Ça serait rentrer dans un piège. Sachant qu'il y a pas mal d'outsiders. Alors s'ils commencent à regarder leur performance chacun, il y a les Katowski qui sont là en embuscade derrière et bien d'autres outsiders. Il faut pas les oublier non plus.
Non, mais lui aussi, il a raté son chrono d'ailleurs.
Ouais, on parle toujours des quatre, les gars. Mais il y en a derrière qui sont là et qui veillent au grain et qui attendent une défaillance de ces quatre-là. Et le fait de se regarder un petit peu trop dans les prochains jours, voire dans les Pyrénées, les Alpes,
Luc, tu as raison, mais là, tu te reportes beaucoup trop loin.
Il faut toujours se reporter un petit peu loin, mais il faut voir
ce qui va se passer.
Demain, il faut passer sans encombre.
J'ai bien compris, j'ai parlé de demain, des pavés.
Le problème demain, ça va être d'avoir des équipiers qui vont te mettre à l'abri toute la journée pour pas prendre de cassure, pour pas être dans les gamelles, et aller faire le sprint. Les 3 derniers kilomètres, c'est au-dessus de la mer. Et ben, je peux vous dire que à partir de ce moment-là, on marque personne. On essaye tout simplement de rester entier et puis de finir dans le premier groupe. Là, ce que tu expliques, c'est vrai, mais ça sera après les pavés.
Bah oui, c'est dans 10 jours quand même la première étape de montagne. Il y a un peu le temps, c'est le 14 juillet.
Après-demain, faut arriver au sommet du mur de Huy. Si le comptador, il est pas mieux que ce que j'ai vu dans le final là, s'il se refait pas une santé en 2 jours, il va s'en prendre encore 20 secondes dans la montée.
Ah oui, tu penses que ça peut continuer?
Il a pas de force là.
Ouais.
En 2 jours, il va retrouver de la force.
Et je te dis, il a fait un gros giro après la route du Sud et machin. Je l'ai dit à Thierry.
Ne vous inquiétez pas pour lui.
Jérôme est avec nous au 32-16. Il nous appelle du Vaucluse. Salut Jérôme.
Allô, bonjour l'équipe.
Oui, bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Voilà, je suis précisément, j'habite Varia La Panier à côté de Montfavet. Ça, Thierry connaît.
On est voisins.
Et je voulais vous dire,
pour parler de la performance de
Thibaut Pinot, quelque chose que vous n'avez pas dit, il est quand même, comme il est devant les pseudo-fantastiques, il est peut-être en position d'être le premier à prendre le maillot jaune. Si évidemment il passe toutes les galères des pavés, du mur de Huy et tout ça, évidemment, je parle conditionnel, mais s'il est le premier à prendre le maillot jaune, c'est aux autres de l'attaquer, et ça change tout. De toute façon, c'est que tactiquement qu'un Français peut gagner le Tour. À la pédale, c'est pas possible, il est le cinquième ou le sixième homme. Et je pense que moi, s'il est le premier à prendre le maillot jaune, ça peut mettre la pression sur Quintana qui...
Voilà. Mais tu le vois prendre le maillot jaune à quel endroit, Jérôme, mais dans combien de temps, là? Parce que...
Mais il suffit qu'il suive les fantastiques dans la première étape de montagne.
Ah oui, d'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il reste 10 jours avant la première étape de montagne. Là. On a l'impression qu'on est au pied de la montagne. Et on en est encore très loin.
Oui,
c'est la première fois dans l'histoire du Tour qu'il y a autant d'étapes de plaine, hein, d'ailleurs.
Oui, alors je vais jouer aussi là les modérateurs, parce que je regarde le classement général. Il y a un coureur dont on n'a pas parlé, mais qui fait quand même partie des outsiders, c'est Rigoberto Urán. Il a quand même une seconde d'avance sur Thibaut Pinot. Et puis un autre dont on ne parle pas suffisamment.
Van Garderen aussi, qui est pas loin. Hein.
C'est Wilco Keldermans.
Ah bon, je croyais que tu le disais.
Oui, non, et qui est un excellent grimpeur et qui est un jeune qui est en train d'arriver. Keldermans, il a perdu que 30 secondes. Hein.
Mm-hmm. D'accord. Donc, tu penses que lui, c'est vraiment le fantastique de ce tournoi.
Voilà des coureurs qui, avant Pinot, peuvent prendre le maillot jaune.
Ils seront plus 4, ils vont être 5.
Ils sont nombreux. 197 fantastiques avec vous, les gars.
Bokemolema est devant Pinot.
Ouais.
Ben oui, mais il faut. Quand on parle de la performance de Thibaut, Bokemolema n'est pas non plus un grand spécialiste du contre-la-montre. Il fait 14e à 37 secondes.
Meilleur rouleur quand même que Pinot par le passé.
Comment?
Meilleur rouleur que Pinot par le passé.
Il a quand même fait
6e du tour par le passé.
Tu parles du contre-la-montre. Quand tu regardes bien, Geraint Thomas, il est 12e. Il y a Gesing, il est 11e, Gesing, en classement général.
Mais on
donc,
est.
C'est pas aussi simple que ça. Il faut bien regarder le classement
étape.
Général.
On va pas s'emballer.
Très bien, nous verrons en tous les cas, les fantastiques ne sont plus fantastiques, ils ont perdu leur pouvoir magique, nous dit Cyril Guimard, en espérant quand même que certains en retrouvent d'ici quelques jours, parce qu'autrement
on risque de s'ennuyer
avec,
comment
ils s'appellent là, tes stars, les stars de Cyril Guimard.
T'as les stars à venir, Keldermans, t'as Gesink qui est dans le coup, t'as Geraint Thomas, t'as Bokemolema, t'as Bob Jungle.
Après, on dit toujours des noms début de tour, et puis la sélection se fait vite, et puis reste
et Van Baarle, vous l'oubliez.
Il trouve des noms, il est incroyable. Il est trop fort, ce druide. Très bien.
Je prends la liste et je vais t'en citer des noms.
Mais ce sont des coureurs qui gagnent.
Mais pour le tour, Cyril.
Bon, on verra ça en tous les cas.
Pour gagner le tour, on parlait de prendre le maillot jaune.
Messieurs, demain, dans un instant plus exactement, nous allons parler de l'étape de demain. Cette deuxième étape qui va donc conduire les coureurs en pleine mer à Zélande sur la digue qui protège les polders néerlandais. Avec évidemment l'un des ennemis, sinon l'ennemi principal des coureurs, le vent qui risque de faire des siennes demain. On en parle dans un instant et puis on va également parier. Personne n'avait donné Juan Denis aujourd'hui. Hein. Ça commence bien, messieurs. Je ne vous félicite pas en termes de paris. 19h41, c'est RMC que vous écoutez. Ouais, enfin, moi, je suis pas un spécialiste. Hein. Moi, je suis une trompette. Hein, tu le sais bien.
Tu en deviens, tu es devenu le spécialiste.
Il nous écoute et il copie.
Oui. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
L'Intégral Tour qui se poursuit jusqu'à 20h30. À partir de 20h, évidemment, vous avez rendez-vous avec Martial Fernandez. Et on attend vos questions au 3216 ou sur le hashtag RMC Live, puisque Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont là pour y répondre. Alors, je crois qu'il y a une finale dans quelques instants à Vichy à l'Open de France. Ce sera dans 2 minutes, Moniton. On retrouvera Julien Richard dans un instant pour la finale du 100 mètres nage libre. L'étape de demain, donc. Cyril, deuxième étape, tu vas nous en parler. Elle est pas très longue, cette étape. 166 km, mais avec un ennemi, l'ennemi héréditaire du coureur cycliste, le vent, celui qui fait peur, surtout le vent de la mer du Nord, qui doit être violent, même si on n'annonce pas non plus la tempête demain. Hein.
Non, mais il suffit pas grand-chose. Hein.
Oui, alors, le vent, l'ennemi des coureurs... L'ennemi des coureurs qui ne savent pas frotter. mais pour certains coureurs, c'est plutôt un allié. Et quand on a une équipe qui est bien rodée pour faire des coups de bordure, eh bien, on espère que le vent sera fort à certains endroits pour faire exploser ce dit peloton. Donc demain, c'est une étape qui est dangereuse. Alors maintenant, quelle sera la puissance du vent? Quelle sera l'angulation du vent par rapport au déplacement des coureurs? Puisqu'on sait que les vents les plus dangereux pour faire exploser un peloton, c'est un vent de 3 quarts arrière. Le vent qui aide les coureurs qui ne savent pas frotter, c'est un vent de face. Jamais une course n'est aussi facile qu'avec vent de face. C'est difficile à comprendre, mais c'est quand même comme ça. Mais avec un vent de côté, et surtout un vent 3 quarts arrière, c'est mortel. Alors, si on se retrouve avec un vent trois quarts arrière, quand on va arriver là-bas sur le bord de mer et qu'on va même passer au-dessus de la mer, je peux vous dire qu'il y aura du dégât. Maintenant, il faudra quand même qu'on ait des précisions sur la météo.
Oui, oui, oui. Pour l'instant, on n'en a pas. On nous dit qu'il y aurait assez peu de vent. C'est Job Zoutemel tout à l'heure qui a expliqué à Pierrick Ten qu'a priori demain le vent ne devrait pas être très très fort et ne devrait pas gêner considérablement les coureurs. Bon, ça, on peut pas le commander malheureusement. Le vent, on décide des étapes, mais on peut
pas. S'il y avait un grand vent avec de la pluie, qu'est-ce que vous seriez content?
J'ai cru que vous, mon cher, allais être content avec ça. Mais toi aussi, Cyril. Oui,
il attend que ça. Peut-être de la pluie demain d'ailleurs. Peut-être quelques orages parce qu'il fait très très chaud. Avant de continuer d'évoquer l'étape de demain, on va faire un tour à Vichy. Là, il y a de l'eau, c'est sûr. C'est la piscine de l'Open de France avec Julien Richard pour la finale du 100 mètres nage libre. Salut Julien.
Salut à tous. Il y a de l'eau chaude. Hein. Elle est fait, il fait tellement chaud à Vichy que l'eau, c'est pas une blague. L'eau est trop chaude. Ils sont obligés de vider le bassin entre midi et deux un petit peu et de remettre de l'eau froide parce que l'eau atteint 30 degrés. Et donc, du coup, pour les nageurs, c'est pas idéal. Une eau idéale, c'est 27 degrés. Non, il fait une chaleur. C'est comme partout en France, j'ai envie de te dire. Mais du coup, on pourrait penser que ça ne les gêne pas, mais ça ne les gêne. La finale du 100 mètres nage libre, donc, avec deux Français dans cette finale. Mehdi Metella, le petit frère de Malia, qui a réalisé le meilleur temps des séries ce matin. Enfin, pas vraiment, il a réalisé le deuxième temps, mais derrière Florent Manodou, mais qui, lui, ne dispute pas la finale du 100 mètres nage libre. Il a décidé, il nous l'avait annoncé hier, je nagerai les séries pour faire un chrono, pour voir où j'en suis, et je me concentrerai sur le 50 mètres papillon. Il a terminé troisième du 50 mètres papillon un peu plus tôt dans ses finales. Donc, Mehdi Metella, l'Indo numéro 4, et Fabien Gillot, le capitaine, l'ancien de cette équipe de France, l'Indo numéro 7. Il y a du beau monde hein, quand même, avec notamment l'inoxydable Filippo Mannini, l'italien, l'Indo numéro 6, double champion du monde en 2005 et 2007 de la distance race du 100 mètres nage libre. Voilà, le départ est donné dans cette finale. Mehdi Metella, qui est le meilleur performant français cette saison sur l'aller-retour, donc il avait un peu raté ses championnats de France sur cette distance, mais derrière, il a montré qu'il était très très rapide, le Marseillais. Gros départ de Fabien Gillot là, l'Indo numéro 7, Mehdi Metella également bien parti, le passage en 50 mètres, Mehdi Metella est en première position, 23 secondes 43 centièmes devant la l'Indo numéro 2, c'est un japonais, Shinri Shiruya. Le retour avec Mehdi Metella qui pour l'instant contrôle tout le monde, hein. Il a une demi longueur d'avance sur tous ses adversaires. Il y a le retour quand même du brésilien Vinicius Waked. Fabien Gillot est un petit peu en retrait, en 2-3ème position Mehdi Metella, les 5 derniers mètres à parcourir, elle va toucher en première position. Le chrono, ça va être intéressant. Ouais, pas terrible. 49 secondes et 1 centième pour Mehdi Metella. Ça n'a pas nagé très vite, mais je vous dis, les conditions ne se prêtent pas à des grosses pertes de toute façon. La deuxième place pour la Lindo numéro 3, le polonais Korzenowski. Et troisième place pour la Lindo numéro 2, le japonais Shiruya. Je regarde Fabien Gillot juste et je vous donne son classement. Il est 6e en 49 secondes 68. Les chronos sont vraiment, vraiment pas bons. Florent Manodou avait nagé beaucoup plus vite ce matin. 48 secondes 77 centièmes.
Bon, ils se transforment pas en langoustes quand ils sortent de l'eau, non, quand même. Ils sont pas tout rouges, hein.
Non, ils sont pas tout rouges, ils ont l'habitude.
Je m'inquiétais avec la température
de l'eau. Je vois des bulles, ça bouge. Non,
oui. Très bien, merci Julien. À plus tard, il y a d'autres courses encore à venir dans la soirée?
C'est terminé pour cette journée. Demain, on a un beau duel sur 50 mètres nage libre entre Florent Manodou et César Sillot au programme.
Merci monsieur Richard, bonne soirée à Vichy. Nous allons également faire un petit tour à Wimbledon, puisqu'après l'élimination de Joe Wilfried Tsonga, deux Français sont opposés. C'est le début du match entre Gilles Simon et Gaël Monfils, c'est ça Eric?
Oui, bonsoir, c'est ça, c'est ça. Enfin, il est 18h47 ici heure de Londres et ils ont enfin pris possession du court numéro 1 et on espère qu'ils pourront aller au terme de cette rencontre parce que là ils ont quand même une fenêtre assez réduite quand on se souvient de leur match en Australie en 2013 achevé 8-6 au 5e, on se dit que les Anglais ont joué avec le feu, mais bon, c'est la faute aussi du match précédent puisque Ward, l'Anglais, a été battu finalement par le Canadien Pospisil. Ça, c'est intéressant dans l'optique de la Coupe Davis. Mais en tout cas, c'est parti entre Gaël Monfils et Gilles Simon avec sur la chaise d'arbitre, évidemment. Pascal Maria, 45 sur service de Gaël Monfils.
À tout à l'heure, Eric. Et évidemment, on va suivre ce duel franco-français à Wimbledon tout au long de la soirée avec toi. Retour à Utrecht pour la suite de l'intégral tour avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Et puis Guillaume qui nous appelle au 32-16 pour évoquer l'étape de demain, cette deuxième étape donc entre Utrecht et Zélande. 166 km au programme et évidemment une grande partie de cette étape qui se fera au bord de mer. Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Bonsoir,
bonsoir. Guillaume. En espérant de la bordure assez rapidement pour qu'on ait du spectacle. Hein, moi j'aimerais une première semaine dantesque avec après bien sûr en France l'arrivée des secteurs pavés. On a vu que l'année dernière ça avait malheureusement contraint à abandonner pour certains leaders, mais au moins ça va découvrir la course. Et ça permettrait peut-être d'arriver au pied des Alpes et des Pyrénées avec des leaders avec du retard et aussi pour avoir une bonne guerre en montagne, parce que souvent on attend les étapes de montagne et puis malheureusement il se passe pas grand chose hormis à 453 mètres de la ligne une attaque d'un leader, donc voilà. Moi j'espère que demain le vent sera de la partie, que les gros leaders certains vont mettre en route comme on dit, et puis qu'on ait du spectacle.
Mmh. Est-ce qu'on va voir les gros leaders mettre en route, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry?
Ouais, y a les sprinteurs qui vont le mettre, hein, déjà.
Oui, les sprinteurs.
Hein,
ouais.
C'est plutôt les équipes de sprinteurs. Hein.
Parce que bon, il y a très peu d'étapes qui vont arriver au sprint, hein, quand même, sur ce tour. Hein, faut bien le dire. Mmh. Donc, ils vont pas louper la première d'entrée comme ça. Ça va.
Enfin, méfions-nous quand
oui,
même.
Oui, mais
les quatre fantastiques
attends,
avec leurs quatre équipes.
Tu sais,
à un moment donné, ils peuvent très bien. Une équipe sur les quatre peut très bien
oui,
se dire tiens,
si
on va tenter
vent,
un coup. S'il y a du vent, on peut tenter un coup de bordure. Ça peut arriver.
C'est sûr que en protégeant les leaders, ils vont accélérer les choses. Ils vont vouloir se mettre à l'abri devant, et puis il y a pas de place pour tout le monde. Tu sais très bien.
Tu regardes Thierry, tu te souviens de l'arrivée à la grande motte? Que Contador et Armstrong étaient dans la même équipe, et puis que l'équipe d'Armstrong avait fait un coup de bordure et que Contador s'était retrouvé piégé derrière.
Ouais.
Enfin, j'ai polémique.
Il avait piégé
Contador. Mais voilà, mais ça peut. Donc ça peut arriver demain pour certaines équipes.
Cyril, quelle est l'équipe la plus à même de réaliser ce genre de coup, les coups de bordure? Est-ce qu'il y a des équipes spécialisées? Est-ce que ça se travaille à l'entraînement?
Oui, ça se travaille surtout depuis Cadet quand vous habitez les Flandres, en Belgique. Ou la Hollande.
La Côte-Steppe,
oui, non, il y a des équipes qui sont spécialisées oui, pour ce genre de choses. Et je pense d'ailleurs que demain, dans cette analyse, il y aura l'équipe Quick-Step qui est quand même intéressée à de nouveau remporter l'étape avec Cavendish. Mais peut-être prendre le maillot aussi avec Tony Martin. Ça peut être vrai également pour l'équipe Trek, qui est très spécialisée dans les coups de bordure, parce que lorsqu'on est à 6 secondes au classement général, une victoire ou une deuxième place, ça peut éventuellement apporter le maillot jaune sur les épaules. Donc il va y avoir la course pour les sprinters sont un petit peu trop loin, hein, parce que je rappelle, les bonifications, c'est 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes au trois
premiers. Oui, parce qu'on est... Il y a le retour des bonifications cette année.
Donc Tony Martin a intérêt à aller chercher des bonifications. C'est la même chose pour Cancellara. Le maillot pourrait donc changer d'épaule demain, à plus forte raison, si Rohan Dennis avait des problèmes collectifs pour rester dans les premières positions.
Très bien, on va évoquer cette étape en pariant dans quelques instants. On remercie Guillaume qui était donc venu nous donner son avis au 32-16. Et en attendant, nous accueillons Benji pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris physiques, poker.
Salut Benji.
Salut Christophe, salut messieurs.
Salut Benji.
Bon, salut Benji.
Je grondais tout à l'heure la Dream Team parce qu'elle n'a pas été très brillante, moi
on
compris évidemment.
Prêt, bon, mais pas
Dream, je suis plutôt
pas
Team. Concernant donc les paris, personne n'avait trouvé et n'avait donné Rohan Dennis. Hein.
Non, c'était un peu compliqué. Même les bookmakers l'avaient totalement oublié. Le plus proche c'est Bourgui puisqu'il termine deuxième avec Martin, et le plus loin c'est Lucho avec Froome qui est 39e.
Il aurait pu faire gagner,
j'ai bien tenté le truc. Hein,
il t'a mis au fond de la classe. Hein.
Bah, c'est pas grave, vous avez pas gagné non plus. Alors.
Ah oui, mais on a marqué des points en général. Et maillot jaune, c'est ce soir, c'est Bourgui. Hein.
Ouais.
C'est ça.
Maillot jaune parce qu'il est tenant du titre, mais il a plutôt endossé le maillot vert parce que le maillot jaune il est pour personne. Hein. On est tous à moins.
Ah oui, d'accord. Il y a pas de maillot jaune.
Et
comment tu veux qu'une étape du Tour de France débute sans maillot jaune?
Il est tenant du titre, donc c'est lui qui garde le maillot pour l'instant.
Très bien, on verra, on espère qu'il y a un maillot jaune dans l'équipe du Tour d'ici la fin
du Tour. Moi, je dois être deuxième, j'avais donné comme
Chélan. Bon,
bah
allez, si vous
on est deuxième, exactement.
Faites vos pronos, les gars.
Alors, les cotes
pour une seconde, Bourgui, il m'a enfumé.
Les cotes des principaux favoris pour l'étape de demain, Benji, puisqu'il ne nous reste que 2 minutes.
Il y a un grand favori, comme toujours, quand on parie sur les étapes réservées a priori aux sprinters, c'est Marc Cavendish de 10, et derrière, c'est Greipel à 5,60. Moi, je vais. Bourgui va peut-être être d'accord, mais puisque c'était son maillot vert, mais moi je vais jouer Christophe à 5,60.
Oui,
24 heures. Voilà, c'est ce que je voulais donner aussi.
Ouais, Christophe Alexander, hein, pas Christophe Sessieux. Ouais,
Alexander, Christophe, évidemment, qui s'est mis en évidence dans ces paysages, dans ce coin de l'Europe au printemps dernier. Donc moi, je vois bien réaliser un beaucoup de
matchs. C'était au printemps aussi.
C'était au printemps, oui, c'est sûr que depuis, il s'est passé pas mal de choses et il est moins sur le devant de l'actualité, sur le devant de la scène. Cyril, qui vois-tu s'imposer demain à Zélande?
C'est assez compliqué, hein, mais je vais jouer Graipel.
Le gorille de Rostock. Voilà donc le favori de Cyril Guimard. Thierry Bourguignon.
Ah, j'ai dit Graipel.
Graipel?
Oui. Il a gagné trois étapes il y a pas si longtemps que ça, de suite. Bon, c'était pas le Tour de France, d'accord, mais ça montre qu'il est quand même en très bonne condition. Et puis il faut qu'il fasse parler de lui tout de suite, parce que après il aura moins l'occasion.
Luc, un petit Français peut-être, non? On a quand même pas mal de sprinters dans ce Tour de France.
Non.
Arnaud Démare, Nasser Bouhanni.
C'est difficile. Non, je vais mettre De Gent Kolb.
Vainqueur de Paris-Roubaix et qui est toujours aussi puissant. Il est impressionnant. Très bien, voilà donc pour les paris.
De Gent Kolb.
Et toi, Christophe?
Moi, j'ai donné Alexander Christophe.
Ah oui. Ouais.
Il y a combien de Gent Kolb, vite fait?
16.
C'est lui le plus près, hein, je crois, non? Entre Christophe et De Gent Kolb.
Ouais. Donc, au classement
général, oui. Je parle.
Christophe, il a gagné une étape, hein, devant Peter Sagan au Tour de Suisse.
Très bien, juste quelques titres. On verra demain, évidemment, qui a raison et il y aura un cadeau demain. David qui nous dit un bon Paul d'air, D-A-I-R, D-A-I-R pour les 4 fantastiques. Autrement, on a les bords durs, mais les bords, le bord de la tasse, dur de la mer du Nord pour Petit Pic. On a encore Zélande, mer, veilleux. Degen Kolb, la gâchette facile, nous dit Azem A. Et puis, Florian nous dit Arnaud Démare sur une bordure. Et puis, voilà, il y en a plein. Je regarderai évidemment demain. Baptiste nous dit 20 000 lieues sur les mers. Et puis Bertus nous dit Sagan droit devant. Vent, V-E-N-T. Voilà donc, ils ont des idées, nos tweetos. Hein. Ils en ont plus que vous. Hein. Vous n'avez pas donné un titre pour l'étape de demain.
Parce que tu nous as rien demandé.
Mais si, je vous ai demandé, mais vous n'avez pas envoyé de tweet, donc je n'ai pas pu le lire. Voilà.
Je ne sais pas utiliser l'ordinateur, moi, alors, je veux dire.
C'est vrai.
Je suis toujours avec les papiers, moi.
Très bien, c'est terminé pour les paris. Merci Benji, à demain.
Ciao.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et Martial Fernandez va prendre le relais, mais tout en gardant Luc Leblanc et Thierry Bourguignon.
Je les garde avec moi.
Ils méritent quand même leur salaire de
vie. Je vais à l'hôtel, je vais manger. Ils sont pas fatigués après 13 km 800 quand même. Il en reste encore quelques-uns.
Combien de temps j'ai marché aujourd'hui? J'ai beaucoup marché.
T'as beaucoup marché. Bon, c'est l'autre chose, la fatigue.
Bon, c'est rien. Il faut se reposer. Il y en a pour 3 semaines. Christophe, c'est vrai qu'on est avec Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. Vous avez le hashtag RMC Live pour leur poser vos questions. C'est votre demi-heure et ce sera comme ça pendant les 3 semaines du tour. Puis il y a le 32-16 aussi, évidemment, pour revenir sur le maillot jaune australien Juan Dennis, sur la performance de Pinot, les résultats des favoris du tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.